Bonjour et bienvenue dans une nouvelle saison de l'émission Compost Cosmique sur Radio BLV 93.6. Chaque mois, Compost Cosmique vous propose une décomposition alchimique entre musique et extraits littéraires comme des clés ouvrant des portes vers d'autres horizons.
C'est avec Patti Smith, chanteuse et musicienne de rock, poétesse et écrivaine, que nous démarrons. Les extraits proposés dans cette première partie sont tirés de Glaneur de rêve et M-Train.
Une émission compostée par... Compost Cosmique. J'ai toujours imaginé que j'écrirais un livre, ne serait-ce qu'un petit livre, qui emmènerait le lecteur dans un royaume qui ne pouvait être mesuré ni même évoqué par le souvenir. J'imaginais beaucoup de choses, que je resplendirais, que je serais bonne. Tête nue, je m'installerais sur un sommet pour tourner une roue qui ferait tourner la terre et invisible parmi les nuages, j'aurais une influence, une utilité. Des aspirations singulières venaient donner à l'atmosphère des ailes, allégeant les membres d'une enfant sombre aux jambes chétives, tout juste capable d'empêcher ses chevilles de disparaître dans ses grosses godasses. Toutes mes chaussettes étaient déformées. Peut-être parce que je les remplissais souvent de billes. Je les chargeais d'agates et de billes d'acier, puis je sortais. Les billes étaient la seule activité dans laquelle j'excellais et je pouvais battre n'importe qui. Le soir, je déversais mon butin sur mon lit et je l'illustrais avec une peau de chamois. Je les rangeais par couleur, par ordre de mérite, et elles se réarrangeaient d'elles-mêmes, petites planètes luisantes, avec chacune son histoire, sa soif d'or propre. Je n'avais jamais l'impression que la capacité de vaincre venait de moi. Il me semblait toujours qu'elle se trouvait dans l'objet lui-même. Un éclat de magie animé par mon toucher. De cette façon, je trouvais de la magie en toute chose, comme si toute chose, tous les fragments de la nature, portaient l'empreinte d'un djinn. Il fallait se montrer prudent, il fallait se montrer malin, car par le discernement, on pouvait attraper une chose lointaine et l'attirer à soi. Et le vent agitait les bords du tissu qui recouvrait ma fenêtre. Là, je montais la garde, attentive à l'infime, qui devenait sans peine, à travers mon œil ouvert, monstrueux et splendide. Je contemplais, j'évaluais, et sans davantage de procès, je disparaissais, tel un avion instable, voltant de terre en terre, sans plus me soucier de mes bras malhabiles ou de mes chaussettes de travers. J'étais parti, et nul n'en avait conscience, car aux yeux de tous, j'étais toujours parmi eux, sur mon petit lit, absorbé par mon jeu d'enfant.
Le café Inno. Quatre ventilateurs tournent au plafond. Le café Inno est vide, à l'exception du cuisinier mexicain et d'un gamin prénommé Zach, qui m'apporte ma commande habituelle, un toast de pain complet, un ramequin d'huile d'olive et du café noir. Je me replie dans mon coin sans enlever ni mon manteau, ni mon bonnet. Il est 9h du matin. Bedford Street, la ville s'éveille. Ma table, flanquée de la machine à café et de la baie vitrée qui donne sur la rue, m'offre un sentiment d'intimité, je peux me retirer dans mon monde. En cette fin de novembre, le petit café paraît glacial. Alors pourquoi les ventilateurs tournent-ils? Peut-être que si je les fixe suffisamment longtemps du regard, mon esprit se mettra lui aussi à tournoyer. Ce n'est pas si facile d'écrire sur rien. Je suis certaine que je pourrais écrire indéfiniment sur rien, si seulement je n'avais rien à dire. Au bout d'un certain temps, Zach pose une nouvelle tasse de café chaud devant moi. « C'est la dernière fois que je vous sers », annonce-t-il solennellement. Il fait le meilleur café du quartier, aussi la nouvelle m'attriste-t-elle. « Pourquoi, vous allez quelque part ? » ?»« Je vais ouvrir un café de plage sur la promenade de Rockaway Beach. » Un café de plage, ça alors, un café de plage. J'étends les jambes en observant Zach accomplir ses tâches matinales. Il ignorait bien sûr que j'avais moi-même rêvé à une époque d'avoir mon propre café. Je crois bien que tout a commencé avec la lecture des histoires de la vie dans les cafés chez les Beats, les surréalistes et les poètes symbolistes français. Là où j'ai grandi, il n'y avait pas de café, mais ils existaient dans mes livres et s'épanouissaient dans mes rêveries. En 1965, j'ai quitté le sud du New Jersey et je suis montée à New York, uniquement pour vagabonder. Rien ne paraissait plus romantique alors que de s'asseoir dans un café de Greenwich Village pour écrire des poèmes. J'ai fini par trouver le courage de pousser la porte du café Dante sur McDougall Street. N'ayant pas les moyens de me payer à manger, je me contentais de boire du café, ce dont personne ne semblait se soucier. Les murs étaient couverts de décorations qui représentaient la ville de Florence et des scènes de la Divine Comédie. Ces mêmes scènes sont encore là aujourd'hui, décolorées par des décennies de fumée de cigarettes. En 1973, j'ai emménagé dans une pièce claire et spacieuse, toute blanche, équipée d'une petite cuisine, précisément dans cette rue à deux pâtés de maison du Café Dante. Je pouvais sortir par la fenêtre de devant, m'asseoir sur l'escalier de secours, la nuit, et observer l'activité aux abords de Kettle of Fish, un des bars que fréquentait Jacques Kerouac. Il y avait une petite échoppe à l'angle de Bleecker Street où un jeune Marocain vendait des petits pains frais, des anchois conservés dans le sel et des bouquets de menthe fraîche. Je me levais tôt le matin et j'allais acheter mes provisions. Je faisais bouillir de l'eau que je versais dans une théière remplie de menthe et je passais les après-midi à boire du thé, à fumer des bouts de haschich et à lire les histoires de Mohamed Rabet et d'Isabelle Eberhardt. Le café Inno n'existait pas à l'époque. Je m'installais au café Dante, près d'une fenêtre basse, en angle, qui donnait sur une ruelle, et je lisais « Le café de la plage » de Mrabet. Driss, un jeune vendeur de poissons, rencontre un vieux bonhomme reclus et antipathique qui possède un soi-disant café avec seulement une table et une chaise sur une bande côtière rocheuse, non loin de Tanger. L'atmosphère de lenteur qui nimbait le café me captivait tant que je ne désirais rien d'autre que d'y habiter. Comme Driss, je rêvais d'ouvrir un tel lieu. J'y pensais tellement que je pouvais presque y entrer. Le café Nerval, un petit havre où poètes et voyageurs auraient trouvé la simplicité d'un refuge. J'imaginais des tapis persans élimés sur un plancher à larges lattes, deux longues tables en bois avec des bancs, quelques tables plus petites et un four pour faire du pain. Chaque matin, j'aurais essuyé les tables à l'aide de chiffons imbibés de thé aromatique, comme cela se faisait à Chinatown. Pas de musique, pas de menu, juste du silence, du café noir, de l'huile d'olive, de la menthe fraîche, du pain complet. Des photographies au mur, un portrait mélancolique de celui qui aurait donné son nom au lieu et une image plus petite de Verlaine, le poète triste et délaissé en par-dessus voûté devant un verre d'absinthe. En 1978, j'ai gagné un peu d'argent et j'ai été en mesure de payer la caution pour louer un bâtiment de plein pied sur la 10e rue Est. Ça avait été naguère un salon de beauté, mais le local était vide, à l'exception de trois ventilateurs au plafond et de quelques sièges pliants. Mon frère, Todd, a supervisé les travaux de remise en état, puis nous avons blanchi les murs à la chaux et ciré le parquet. Deux grandes lucarnes inondaient l'espace de lumière. J'ai passé plusieurs jours à l'aplomb de ces lucarnes, assise à une table à jouer. Je buvais des cafés achetés à l'épicerie voisine en réfléchissant à la suite. J'allais avoir besoin de fonds pour les WC, une machine à café et des mètres de mousseline à accrocher aux fenêtres. Autant de considérations pratiques qui habituellement s'évanouissaient dans la musique de mon imagination. J'ai fini par devoir abandonner mon café. Deux ans plus tôt, j'avais rencontré le musicien Fred Sonic Smith de Détroit, une rencontre inattendue qui a lentement modifié le cours de mon existence. Les sentiments que j'avais pour lui s'immisçaient dans tous les aspects de ma vie, mes poèmes, mes chansons, mon cœur. Nous menions une existence parallèle à faire constamment la navette entre New York et Détroit. Nos trop brefs rendez-vous se soldaient toujours par des séparations déchirantes. J'étais en train de réfléchir à l'emplacement futur de l'évier et de la machine à café quand Fred m'a imploré de venir vivre avec lui à Détroit. Rien ne paraissait plus vital que de rejoindre mon amour, que je n'allais pas tarder à épouser. J'ai dit au revoir à New York et aux aspirations qui y étaient liées. J'ai pris mes affaires les plus précieuses et j'ai laissé le reste derrière moi,
renonçant au passage à la caution que j'avais versée et au café que je voulais ouvrir. Cela m'était égal. Les heures solitaires passées à boire du café à la table à jouer, illuminées par mon rêve de café, me suffisaient.
Straight goals trying to fade away, but you're always on my mind. Outside the trees are shaking, they know the damage is done. I'm still wandering and I can't explain why and where you have gone. Nobody can read all the letters, nobody can turn on. Deep down, I know I will be alone tonight. Nobody can catch all the raindrops. Nobody can count all the tears. And deep down, I know it's hard to admit. Love is weaker than fear.
Cairo régurgitait une boule de poils. Je me suis levée pour boire de l'eau et elle en a profité pour sauter sur le lit et dormir à mes côtés. Mes rêves ont changé. Tribulation d'une personne que je ne connaissais pas, perdue dans un labyrinthe de couloirs formés par les immenses armoires de classement de Brésil, le film, pas le pays. Je me suis plus ou moins réveillée, j'ai tâtonné sous le lit à la recherche de mes chaussettes, mais je n'ai trouvé qu'une pantoufle égarée. Après avoir nettoyé les traces de vomi de la petite chatte, je suis descendue pieds nus, j'ai écrasé une grenouille en caoutchouc, puis passé un temps démesuré à préparer le petit déjeuner des chats. La petite abyssine tournait en rond. Le plus vieux, plus intelligent, ne quittait pas des yeux le bocal de friandises et un énorme matou, ici présent faute de mieux ailleurs, était fasciné par le moindre de mes mouvements. J'ai rincé les bols, je les ai remplis d'eau filtrée et choisi pour chacun une soucoupe adaptée à sa personnalité en piochant dans un tas de vaisselle dépareillée et j'ai pris soin de bien mesurer la quantité de nourriture. Il semblait plus soupçonneux que reconnaissant. Le café était vide, mais le cuisinier dévissait la prise dans le mur au-dessus de mon siège. J'ai emporté mon livre aux toilettes et j'ai lu en attendant qu'il ait terminé. Quand je suis sortie, le cuisinier était parti et une femme s'apprêtait à prendre ma place. « Excusez-moi, c'est ma table. Vous l'avez réservée ?»« Ma foi, non, mais c'est ma table. » »« Vous étiez vraiment assise ici ?»« Il n'y a rien sur la table et vous avez votre manteau sur vous. » Je suis restée la muette. Dans un épisode d'Inspecteur Barnaby, on l'aurait sûrement retrouvé étranglé au fond d'un ravin derrière un presbytère abandonné. J'ai haussé les épaules et me suis assise à une autre table dans l'espoir qu'elle s'en aille. Elle parlait fort, a commandé des œufs bénédicts et un café glacé avec du lait écrémé, rien de tout cela ne figurant au menu. « Elle va s'en aller, » me suis-je dit. Mais elle n'est pas partie. Elle a bruyamment posé son énorme sac en lézard rouge sur ma table et a passé un tas d'appels sur son téléphone portable. Il n'y avait pas moyen d'échapper à son odieuse conversation, focalisée sur le numéro de traçage d'un paquet envoyé par FedEx qui avait disparu. Je suis restée assise à regarder fixement la lourde tasse à café blanche. Dans un épisode de Luther, on l'aurait retrouvée dans la neige, le visage tourné vers le ciel, avec des objets sortis de son sac à main disposés autour d'elle, une aura lui enveloppant le corps comme Notre-Dame de Guadalupe. « Que de sombres pensées pour une table en coin !» a chuchoté mon Jiminy Cricket intérieur. « Bon, d'accord, » ai-je concédé. « Puissent les petites choses du monde combler cette femme ?»« Bien, bien, » a dit le grillon. « Et puisse-t-elle acheter un billet de loterie et tomber sur le numéro gagnant ?»« Superflu, mais c'est très bien. » »« Et qu'elle commande 1000 sacs, comme celui-ci, tous plus splendides les uns que les autres, qu'ils soient acheminés et égarés par FedEx et qu'elle se retrouve piégée dans un entrepôt sans nourriture, ni eau, ni téléphone portable. « Je m'en vais, » a murmuré ma conscience. « Moi aussi, » ai-je dit. « Et je suis ressortie dans la rue. »
En allant au café Inno, j'ai remarqué que la doublure de ma poche gauche était déchirée et j'ai noté dans un coin de ma tête qu'il me faudrait la raccommoder. Mon humeur s'est soudain éclaircie. La journée était belle et claire, l'atmosphère pétillait de vie, comme les fibres translucides d'une espèce aquatique rare, aux longs tentacules flottants, les filaments ondoyant à la verticale d'une ombrelle de méduse. Si seulement l'énergie humaine pouvait se matérialiser ainsi. J'imagine de telles fibres qui onduleraient à l'horizontale des bords de mon manteau noir. Il y avait dans le petit vase des toilettes du café Inno des boutons de rose rouge. J'ai posé mon manteau sur la chaise vide en face de moi et passé presque toute l'heure à boire du café et à remplir des pages de mon carnet avec des dessins d'animaux unicellulaires et de diverses espèces de plancton. C'était étrangement réconfortant car je me souvenais d'avoir recopié des dessins similaires à partir d'un épais manuel scolaire rangé sur l'étagère au-dessus du bureau de mon père. Il y avait toutes sortes de livres récupérés dans des poubelles et des maisons abandonnées, achetés pour 2 sous dans des ventes de charité de l'église. L'étendue des sujets reflétait son esprit toujours curieux, de l'étude des ovnis à Platon, en passant par la planaire. Je m'absorbais dans ce livre-là pendant des heures, à contempler le monde mystérieux qu'il recelait. Le texte dense était impossible à déchiffrer, mais d'une certaine manière, les rendus monochromes d'organismes vivants suggéraient maintes couleurs, comme du menu fretin scintillant dans une mare fluorescente. Ce livre obscur et sans nom, avec ses paramécies, ses algues et ses amibes, flotte dans ma mémoire encore bel et bien vivant. Toutes ces choses qui disparaissent avec le temps et que nous nous surprenons à vouloir revoir. Nous les cherchons en gros plan, comme nous cherchons nos mains en rêve. Mon père prétendait ne jamais se rappeler ses rêves, mais moi je racontais facilement les miens. Il me disait aussi que voir ses propres mains dans un rêve était excessivement rare. J'étais sûre de pouvoir y arriver, à condition de me concentrer, raisonnement qui a conduit à pléthore d'expériences avortées. Mon père discutait l'intérêt d'une telle démarche. Toutefois, l'invasion de mes propres rêves figurait en bonne place sur ma liste des choses impossibles qu'il faut un jour accomplir. À l'école primaire, je me faisais souvent gronder parce que je n'écoutais pas. J'imagine que j'étais occupée à réfléchir à de tels sujets ou bien je tentais d'élucider le mystère d'un réseau de questions apparemment insolubles. L'équation « il a un grain » par exemple a occupé une bonne partie de ma classe de CE1. Je me trouvais face à une formule problématique dans l'histoire de David Crockett, d'Enid Meadowcroft. Je n'étais pas censée lire cela, car il était dans la bibliothèque des CE2. Mais le livre m'avait attirée, aussi l'avais-je glissé dans mon cartable et lu en douce. Je me suis instantanément identifiée au jeune Davy, qui était grand et dégingandé, racontait des histoires grandioses, s'attirait des ennuis et oubliait ses corvées. Son paternel disait toujours que Davy avait un grain. Je n'avais que 7 ans et ces mots m'ont stoppé dans mon élan. Qu'est-ce que son paternel avait bien pu vouloir dire par là? Je restais éveillée la nuit à y réfléchir. De quel grain s'agissait-il? Comment un garçon comme David Crockett pouvait-il avoir un grain? J'ai suivi ma mère au supermarché, I&P, en poussant le caddie. « Maman, ils vendent du grain ici ?»« Oh Patricia, je sais pas, tu poseras la question à ton père. Je vais prendre le caddie pendant ce temps, va donc chercher tes céréales et ne traîne pas, hein ?» J'ai vite fait ce qu'elle me demandait, attrapé une boîte de shredded wheat, puis j'ai filé dans les rayons épicerie pour voir le prix du grain, confronté à un nouveau dilemme. Quel genre de grain? Avoine, millet, orge, maïs, haricots, sans parler des grains de poivre, de raisin et des grains de café. En définitive, j'ai décidé que David Crockett n'était pas du genre à avoir en lui un grain, quel qu'il soit. En dépit de tous ses défauts, il besognait dur et remboursait toutes les dettes de son père. J'ai lu et relu le livre interdit, je l'ai suivi sur des sentiers qui ont orienté mon esprit vers des horizons inattendus. J'avais désormais une boussole trouvée dans un tas de feuilles mouillées, dans lequel, chemin faisant, j'avais donné un coup de pied. La boussole était vieille et rouillée, mais elle fonctionnait encore, reliant la terre aux étoiles. Elle m'indiquait où je me trouvais et où était l'ouest, mais pas où j'allais, ni ce que je valais.
Snake skin, gasoline, I got juice in my machine, I got
J'allais regarder les surfeurs et j'ai arpenté les rues entre l'océan et le métro aérien. En retournant vers la station, j'ai été attirée par un petit terrain entouré d'une haute palissade que les intempéries avaient malmenée. Elle ressemblait aux enceintes des forts du genre Alamo que mon père et moi construisions enfants. Les restes d'un grillage de marque Cyclone maintenaient la palissade debout et une pancarte sur laquelle était écrit à la main « Vente directe par propriétaire » y était accrochée avec une ficelle blanche. C'était trop haut pour que je voie ce qu'il y avait de l'autre côté, alors je me suis hissée sur la pointe des pieds et j'ai risqué un coup d'œil à travers une latte cassée, comme par le Judas dans le mur d'un musée, pour admirer, étant donné, la dernière grande œuvre de Marcel Duchamp. Le terrain faisait environ 8 mètres de large et 30 mètres de long, le format standard alloué aux ouvriers qui travaillaient sur le chantier du parc d'attractions au début du XXe siècle. Certains y avaient construit des bicoques, la plupart disparues. J'ai repéré une autre brèche dans la palissade qui m'a permis de mieux voir. Le petit jardin était envahi de hautes herbes où étaient éparpillés de la ferraille rouillée, des tas de pneus et un bateau de pêche sur une remorque tordue qui cachait quasiment le bungalow. Dans le métro, au retour, j'ai essayé de lire, mais n'ai pas réussi à me concentrer. J'étais tellement omnibulée par Rockaway Beach et le bungalow d'Ekati, de l'autre côté de la palissade en bois déglingué, que j'étais incapable de penser à autre chose. Ce secteur m'avait totalement envoûté. J'étais sous le coup d'un sortilège antérieur à mes premiers souvenirs. J'ai songé au mystérieux oiseau à ressort. « Est-ce toi qui m'as attiré ici ?» me suis-je demandé. « Près de la mer, alors que je ne sais pas nager ? Près de la voie ferrée, car je ne conduis pas ?» La promenade en bois faisait écho à une jeunesse dans le sud du New Jersey avec ses promenades en bois. Willwood, Atlantic City, Ocean City. Plus renommée peut-être, mais pas aussi belle. Cela me semblait être l'endroit parfait, sans affiches publicitaires, avec peu de traces de l'omniprésent commerce qui empiète sur tout. Et le bungalow caché. J'avais été si vite charmée. Je l'imaginais aménagé, un endroit où réfléchir, cuisiner des spaghettis, préparer du café, un endroit où écrire. De retour à la maison, j'ai contemplé le numéro que j'avais inscrit sur le bout de papier, mais n'ai pas pu me résoudre à le composer. Je l'ai laissé sur ma table de nuit devant mon petit téléviseur, étrange talisman. J'ai fini par appeler mon ami Klaus et lui ai demandé de passer le coup de fil pour moi. J'imagine que j'avais peur d'apprendre qu'elle n'était pas réellement à vendre ou que quelqu'un d'autre l'avait déjà achetée. « Bien sûr, a-t-il dit, je parlerai au propriétaire et je demanderai des précisions. Ce serait formidable que nous soyons voisins. J'ai commencé à rénover ma maison, elle n'est qu'à une dizaine de rues du bungalow. » Klaus rêvait d'un jardin et avait trouvé son terrain. J'étais persuadée d'avoir rêvé de cet endroit précis sans le savoir. L'oiseau à ressort avait éveillé un désir ancien, quoique récurrent, un rêve aussi ancien que celui d'ouvrir mon propre café. Vivre en bord de mer, avec un jardin en friche qui serait à moi. Quelques jours plus tard, la belle-fille du vendeur, une jeune femme de bonne composition, mère de deux petits garçons, m'a donné rendez-vous devant la vieille palissade. Nous ne pouvions pas entrer par le portail car le propriétaire l'avait condamnée à l'aide d'un cadenas, par précaution. Klaus m'a fourni toutes les informations dont j'avais besoin. Vu l'état de la maison et compte tenu d'arriérés d'impôts, ce n'était pas une propriété que l'on pouvait acquérir par l'entremise d'une banque, si bien que l'acheteur se verrait dans l'obligation de régler en liquide. D'autres acheteurs potentiels, à la recherche d'une bonne affaire, avaient fait des propositions ridiculement basses. Nous avons discuté jusqu'à nous entendre sur une somme raisonnable. Je lui ai dit qu'il me faudrait 3 mois pour réunir les fonds et après discussion avec le propriétaire, tout le monde était d'accord. Je travaille tout l'été. Quand je reviendrai en septembre, j'aurai la somme dont j'ai besoin. J'imagine qu'il faudra qu'on se fasse mutuellement confiance, ai-je dit. Nous nous sommes serré la main. Elle a enlevé le panneau vente directe par propriétaire et nous nous sommes dit au revoir d'un signe de la main. J'avais beau être incapable de voir à l'intérieur de la maison, je ne doutais pas un seul instant d'avoir pris la bonne décision. Tout ce que je trouverais à mon goût serait conservé, le reste je l'aménagerais. « Je t'aime déjà », ai-je dit à la maison.
Le mois de septembre tirait à sa fin. Il faisait déjà froid. En remontant la 6e avenue, je me suis arrêtée acheter un nouveau bonnet à un vendeur de rue. J'étais en train de le mettre sur ma tête quand un vieil homme s'est approché de moi. Il avait un regard bleu incandescent et des cheveux blancs comme neige. J'ai remarqué que ses gants en laine s'effilochaient et qu'il portait un bandage à la main gauche. « Donne-moi l'argent que tu as dans ta poche, » a-t-il dit. Ou bien c'est une épreuve, ai-je songé, ou bien je viens d'entrer dans un conte de fées des temps modernes. J'avais un billet de 20 et 3 billets d'un dollar que je lui ai fourré dans la main. « Bien, » a-t-il dit au bout d'un moment, et il m'a tendu le billet de 20. Je l'ai remercié et j'ai poursuivi mon chemin, plus enjoué que je ne l'étais au départ. Il y avait beaucoup de gens pressés dans la rue. On se serait cru la veille de Noël, au moment des achats de dernière minute. Je ne m'en étais pas tout de suite rendu compte, mais il me semblait que leur nombre allait croissant. Une jeune femme m'a frôlé, tenant une pleine brassée de fleurs. Un parfum enivrant est resté en suspens, puis s'est dissipé, remplacé par un refrain vertigineux. Je me sentais ultra lucide, consciente d'un cœur qui battait, de l'odeur d'une chanson qui flottait à la croisée de vents antagonistes et du courant humain revenant à son point de départ. Appauvri de 3 dollars, certes, mais enrichi d'un amour durable. Les signes étaient favorables. La date limite pour la transaction était le 4 octobre. Mon conseiller immobilier a tenté de me dissuader d'acheter le bungalow en raison de son état de délabrement et de sa valeur à la revente qu'il jugeait tout à fait douteuse. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il s'agissait là pour moi de qualité. Quelques jours plus tard, j'apportais l'argent gagné au cours des mois précédents et l'on me remettait la clé et l'acte notarié qui faisait de moi la propriétaire d'une petite maison inhabitable sur un terrain ratatiné à quelques pas de la station de métro sur la droite et de la mer sur la gauche. La transformation du cœur est quelque chose d'extraordinaire, peu importe le biais par lequel on y arrive. J'ai fait réchauffer des haricots, j'ai mangé vite, je suis allée à la station West 4th Street et j'ai pris la ligne A en direction de Rockaway. J'ai pensé à mon frère, aux heures passées ensemble à construire des forts et des cabanes Lincoln Log. Nous vouillons un culte à l'acteur Fess Parker, notre Davy Crockett. Assure-toi d'abord d'être dans le vrai et ensuite fonce, telle était sa maxime. C'était un chic type. Je refusais de croire qu'il avait un grain. Nous avions fait un bout de chemin avec lui, tout comme je fais à présent un bout de chemin avec l'inspectrice Sarah Linden. Je suis descendue à Broad Channel pour prendre la navette. C'était une journée d'octobre clémente. J'adorais cette brève marche de la section de métro à la rue calme, chaque pas me rapprochant de la mer. Je n'étais plus forcée de lorgner le bungalow avec envie par une latte cassée. J'ai ignoré la pancarte, entrée interdite, et pour la première fois, suis entrée dans ma maison. Elle était vide, à l'exception d'une guitare acoustique pour enfants aux cordes cassées et d'un fer à cheval en caoutchouc noir. Rien que du bon. Pièces exiguës, évier rouillé, plafond voûté, odeurs vieilles d'un siècle mêlées à des senteurs moisies d'animaux. Je n'ai pas pu rester très longtemps, car la moisissure et l'humidité prégnante ont réveillé ma toux, sans pour autant ternir mon enthousiasme. Je savais exactement quoi faire. Une grande pièce, un ventilateur, des lucarnes, un évier campagnard, un bureau, quelques livres, une banquette-lit, un sol en carrelage mexicain et un fourneau. Je me suis assise sur mon porche de guingois et j'ai contemplé avec une joie de gamine mon jardin piqueté de pissenlits résistants. Le vent s'est levé et j'ai senti les effluves de la mer. J'ai verrouillé ma porte et refermé le portail, tandis qu'un chat errant se glissait par une latte flottante. Désolée, pas de lait aujourd'hui, uniquement de la joie. Je suis restée devant la palissade délabrée. Mon Alamo, ai-je dit, ma maison avait désormais un nom.
Wears his Sunday best. Mother's time. to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
C'était Compost Cosmique, une émission pour vous accompagner toutes les deux semaines, les mardis de 13h à 14h et les jeudis de 21h à 22h et en podcast sur le site de Radio BLV 93.6. Allô Cosmos, ici Compost, tout n'est que poésie.